Cette balado-diffusion a été réalisée au Congrès national 2009 du SCFP.
Alors, délégué, je vais te rappeler le confrère Claude qui va nous présenter cet invité très spécial. Alors, Claude, je vous repasse la parole.
J'aimerais bien présenter Michel dans l'une des langues qu'elle pratique couramment. Il y a le français, mais je suis sûr que, en tant que membre de la grande nation, Abenaki, alors, elle pratique quelques langues, mais je le ferai en français. Michel Rouleau travaille à la défense des droits des Autochtones depuis plus de 25 années. Elle est productrice et animatrice et anime l'émission Nation, qui est un magazine d'information sur les Autochtones, à propos des Autochtones, qui est diffusé au réseau Télé-Québec, qui est, par exemple, pour l'Ontario TFO, la Télévision française d'Ontario, et aussi le réseau des informations RDI, qui est un peu comme le News World de CBC. Michel présente des conférences et des ateliers de même partout dans le monde, dans le but de faire connaître les différentes réalités autochtones. Et ces dernières années, d'ailleurs, elle s'est impliquée activement dans les dossiers des droits de la personne, de même que les droits de la jeunesse du Québec. Et en 1992, ce faisant, le gouvernement du Québec lui décernait, reconnaissait tout ce travail en lui décernant le prix de la justice. Et la Commission des droits de la personne du Québec, de même, lui a remis le prix des droits et libertés. Elle est impliquée dans l'Association des femmes autochtones du Québec, à tel point d'ailleurs qu'elle en a été la présidente de 1987 à 1992. On a affaire à toute une concert, à toute une militante. Je crois qu'on va en entendre parler d'une manière telle qu'on va apprendre quelque chose aujourd'hui par rapport à ce qu'on veut développer sur notre militantisme. Au printemps de cette année, l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, lui a décerné un doctorat honoris causa. Il me fait vraiment grandement plaisir d'inviter Michel à prendre la parole maintenant à ce congrès. Veuillez, s'il vous plaît, bien accueillir Michel Rouleau. Michel? Merci beaucoup.
Bonjour. Good morning. Kwekwe. Wajia. I would like to extend
J'aimerais saluer chaleureusement mes consœurs, confrères des différentes Premières Nations qui viennent d'un peu partout au Canada. Bienvenue. Je vais vous parler en français. Par conséquent, pour les gens qui ne comprennent pas le français, mais désolé, vous allez être obligés de vous mettre des écouteurs sur la tête.
Je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à prendre la parole ici aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous. J'apprécie grandement cette occasion qui m'est offerte de vous parler d'une réalité qui est encore trop souvent ignorée, celle des Premières Nations. Pour comprendre la réalité contemporaine des peuples autochtones et les revendications des Premières Nations, il faut avoir des repères historiques. Malheureusement, dans ce pays, l'histoire qu'on nous a enseignée a été passée au Javex. On a fait un lavage plus blanc que blanc de l'histoire. Et dans cette belle histoire blanche, ce pays a été découvert par des Blancs, colonisé par des Blancs, développé par des Blancs. Les Indiens qui vivaient sur le territoire, eux, avaient leur utilité, mais malheureusement, ils sont vite devenus nuisibles. Bien sûr, je caricature, mais n'empêche qu'à certains égards, l'histoire du Canada qu'on nous a enseignée ressemble à une grosse légende où les nouveaux arrivants ont le beau rôle et les Indiens sont les méchants. Et cette histoire, aujourd'hui encore, vient teinter nos relations. C'est pourquoi aujourd'hui, je saisis cette occasion pour vous faire un petit rappel historique, vu du côté des méchants Indiens. Donc, voici ma version très écourtée de notre histoire. Jadis, sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Canada, il y avait des sociétés autochtones organisées. Certaines nations étaient nomades, d'autres étaient sédentaires. Ces nations avaient leurs règles de fonctionnement d'occupation du territoire et de cohabitation. Les Premières Nations ont d'abord eu des relations commerciales avec les Européens, d'abord pour l'huile de baleine et ensuite pour la traite des fourrures. Quand le commerce des fourrures tomba en déclin, on n'avait plus besoin des Indiens, mais plutôt de leurs terres. Les nouvelles puissances se sont accaparées le territoire et les relations avec les Premières Nations se sont transformées. Petit à petit, les Premières Nations sont devenues dépendantes de l'État. Par la suite, pour gérer les affaires de ceux qu'on appelait les sauvages, les nouveaux gouvernements ont mis de l'avant des stratégies, ont adopté des législations qui portaient des noms comme l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages ou encore, tout simplement, l'acte concernant la civilisation des sauvages. Avec l'avènement de la Confédération canadienne en 1867, c'est au gouvernement fédéral que revient la compétence exclusive sur les affaires indiennes. Et la Loi sur les Indiens de 1876 confère aux Indiens un statut de citoyen mineur et s'avère être un véritable régime de tutelle. Les Indiens ne décideront plus pour eux-mêmes. Encore aujourd'hui, 140 ans plus tard, c'est la Loi sur les Indiens qui dicte comment les communautés autochtones gèrent leurs affaires. Et la personne qui a l'autorité sur la Loi sur les Indiens, c'est le ministre des Affaires indiennes. La Loi sur les Indiens dicte, entre autres, qui est indien, qui ne l'est pas. Le statut indien est défini à l'article 6 de la Loi. Il y a différentes catégories d'Indiens. Quand on est Indien inscrit, on est Indien inscrit à deux endroits. Au bureau du registraire et au sein de ce que le ministère appelle une bande indienne. On a un numéro de bande. Là, on entre dans l'univers de la Loi sur les Indiens. Il y a les bandes, puisque dans la Loi sur les Indiens, on n'utilise jamais le terme « nation ». On parle de bandes, on parle de conseils de bandes, de réserves, de numéros de bandes, d'Indiens inscrits. Dans la catégorie 6.1, 6.2, les réinscrits, on appelle certains les C-31. Les C-31, qui sont surtout des femmes qui ont été réinscrites en vertu du projet de loi C-31, qui a modifié la loi sur les Indiens en 1985. Jusqu'à cette date, l'article 12.1b de la loi sur les Indiens stipulait qu'une femme indienne qui épousait un non-indien perdait son statut. Pour une femme indienne, perdre son statut légal signifiait aussi d'être chassée de sa communauté et être reniée par les siens. C'est dans les années 70 que les femmes ont entrepris leur bataille pour faire réparer cette injustice. À l'époque, il y a eu des femmes comme Mary Two Axe Early, une Mohawk de Ganawagé, qui a fondé le mouvement Droits égaux pour femmes indiennes. Et c'est au même moment qu'ont été fondées les associations de femmes autochtones à travers le Canada. D'autres femmes ont emprunté la voie des tribunaux. La première, Jeannette Corbière-Lavelle, contestait la discrimination qui lui était faite par la Loi sur les Indiens en lui faisant perdre son statut indien par mariage avec un non-indien. En 1973, elle a perdu sa cause en Cour suprême. Les juges, considérant qu'elle ne subissait pas de discrimination, puisque selon eux, elle avait amélioré son sort en épousant un blanc. En 1981, Sandra Lovelace, de Tubic, au Nouveau-Brunswick, elle portait sa cause devant le tribunal du Comité des droits de l'homme aux Nations unies. Le jugement de ce tribunal n'avait aucun effet juridique, mais ce fut une victoire morale, puisqu'il dénonçait la discrimination contenue dans la Loi sur les Indiens. Et finalement, après de longues années de lutte, en 1985, l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, plus spécifiquement de l'article 15, portant sur le droit à l'égalité, obligea le gouvernement canadien à modifier la Loi sur les Indiens. Le projet de loi C-31, qui redonnait le statut aux femmes qui l'avaient perdu par suite à un mariage à un non-indien, ainsi qu'à la première génération d'enfants, a redonné le statut à ces femmes. Mais la loi C-31 avait ses complications et l'opposition au changement était très forte, même violente dans certaines communautés. Sur le plan politique, c'est beaucoup à partir du Québec que cette lutte a été menée. L'Association des femmes autochtones du Québec a été au cœur de ces débats et laissez-moi vous dire que ce fut une période plutôt mouvementée. Encore aujourd'hui, tout n'est pas réglé. De nombreux problèmes persistent et les femmes doivent encore contester la discrimination persistante de la loi sur les Indiens. Et malheureusement, chez les Premières Nations, certains ont adopté cette mentalité de la loi sur les Indiens. On pratique la discrimination entre nous. On discrimine sur le statut indien, sur la couleur de la peau ou encore sur le lieu de résidence. Avec la loi sur les Indiens, il y a eu la création des réserves. Et aujourd'hui, on est à même de constater les résultats de ces politiques et réglementations absurdes. La plupart des communautés autochtones aujourd'hui sont aux prises avec de graves problèmes sociaux. Bien sûr, les communautés ne sont pas toutes pareilles. Il y a des différences entre les communautés urbaines, les communautés rurales et les communautés isolées. On comprend qu'il y a des communautés qui tirent très bien leur épingle du jeu, mais d'autres sont carrément laissées pour compte. Et la vie de ses habitants n'a rien d'enviable. Pour la majorité des communautés autochtones au Canada, la toile de fond est plutôt sombre. Les communautés autochtones ont un taux de suicide 5 à 10 fois plus élevé que la moyenne nationale. Beaucoup sont aux prises avec des situations de violence, les cas d'abus sexuels sont nombreux et les problèmes de toxicomanie et de dépendance au gambling sont choses courantes. La violence familiale en milieu autochtone prend différentes formes. Agressions physiques et sexuelles, agressions psychologiques, négligence et exploitation financière. Bien qu'il y ait toute une mobilisation pour contrer cette violence, elle est encore bien présente, trop présente. On dit qu'elle se fait plus sournoise. Par ailleurs, il existe maintenant une nouvelle forme de violence, une violence mystérieuse et qui se propage comme la peste, les disparitions de jeunes femmes. Est-il normal que dans un pays comme le Canada, tant de jeunes femmes disparaissent sans que les autorités s'en inquiètent davantage? Et que les médias en fassent si peu de cas. Pour en revenir à la violence dans les communautés, certains experts disent que ce serait le propre d'un peuple colonisé qui retourne la violence contre les siens. On a identifié la source du problème, on en parle, on essaie de changer les choses, mais il y a encore de la résistance chez certains. On peut comprendre qu'il y ait de la violence dans nos communautés. On peut comprendre les causes, mais cela n'excuse rien. On ne doit jamais excuser la violence. Et surtout, qu'on ne dise jamais... que c'est culturel ou que c'est traditionnel. La violence est inacceptable. En aucun cas, on ne doit la tolérer. Il faut y mettre fin avant qu'on ait détruit d'autres générations. Nous avons déjà toute une génération qui a été marquée par l'expérience des pensionnats. Les pensionnats où sont passés 150 000 enfants autochtones, où plusieurs ont été victimes de négligence, de sévices physiques et sexuels. Bien sûr, ce ne sont pas tous les Autochtones qui ont vécu des sévices et qui ont eu de mauvaises expériences. Mais une fois qu'on a dit ça, cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître cette partie sombre de l'histoire du Canada. La blessure des pensionnats est profonde. La vie dans les communautés autochtones est teintée par cette tragédie et l'ampleur des problèmes sociaux nous démontrent la puissance de l'impact intergénérationnel. Le gouvernement canadien a reconnu ses torts dans cette affaire. En juin 2008, le premier ministre Harper, au nom du gouvernement du Canada, a présenté des excuses aux Premières Nations. L'Église catholique, elle, a choisi de ne pas s'excuser. Et c'est du bout des lèvres que le pape a émis des regrets. Le gouvernement fédéral a instauré un programme de compensation pour les survivants des pensionnats et a mis sur pied une commission de réconciliation. Mais on est encore loin d'une véritable réconciliation. On ne peut s'empêcher de penser que ce que nous avons devant nous aujourd'hui, c'est le résultat de 300 ans de politique de colonisation. C'est ce qu'on obtient quand on dépossède un peuple de ses terres, de son mode de vie, de sa langue et de sa culture. Quand on met des individus sous tutelle, qu'on les infantilise et qu'on les déresponsabilise. Certains n'aiment pas entendre parler de ça, mais on ne peut ignorer l'histoire et on ne peut nier le fait que ce pays s'est construit sur le dos de ses premiers habitants, que ceux-ci ont été dépossédés et qu'on leur a nié tout contrôle sur leur propre vie. Aujourd'hui, le défi auquel font face les Premières Nations est énorme. Reconstruire des sociétés qui ont été exclues et appauvries. Il y a tant à faire. Nous aspirons à une vie meilleure pour nous et pour nos enfants. Et pour ça, il faut voir à l'amélioration des conditions de vie de nos familles. Il faut des logements, des infrastructures adéquates, un accès à l'eau potable, davantage de ressources en santé et en services sociaux. Sur le plan économique, il faut des projets innovateurs, des emplois, une main-d'œuvre qualifiée. Nous devons miser sur un développement durable, respectueux de l'environnement. Pour participer pleinement au développement de nos nations, les jeunes ont besoin d'avoir accès à une éducation. On doit les encourager, leur donner de l'espoir. Ils ont besoin de modèles positifs, de sentir qu'ils ont leur place dans la société. Nous devons assurer la protection, la survie de nos langues et de nos cultures. Les Premières Nations ne pourront se développer économiquement, culturellement et socialement sans avoir accès aux ressources et aux territoires, territoires qu'elles occupaient jadis. Il faut rétablir un équilibre entre nos sociétés. Et pour leur survie, les Premières Nations auront besoin de toutes les forces vives, dans les communautés et à l'extérieur des communautés. Cette nouvelle société que nous voulons devra se distinguer des autres, non pas par de la rhétorique et des grandes déclarations, mais par ses actions. Nos dirigeants devront donner l'exemple en se donnant des codes d'éthique pour eux et pour l'ensemble des gestionnaires des Premières Nations. L'autodétermination des Premières Nations doit se faire dans un contexte d'ouverture et d'inclusivité. La participation citoyenne doit être encouragée et soutenue. En même temps que nous affirmons le droit collectif des Premières Nations, il faut s'engager à respecter les droits humains des individus. Ces droits ne sont pas en opposition, mais en complémentarité. Pour les gouvernements, il est plus que temps de reconnaître la légitimité des Premières Nations. À cet égard, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en septembre 2007, est sans contredit la clé de l'établissement d'une nouvelle relation. Cette déclaration affirme que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination et qu'en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. À ce jour, 144 pays ont donné leur appui à cette déclaration. Seulement 3 pays ont refusé de signer. La Nouvelle-Zélande, Les États-Unis, sous l'administration Bush, je précise, et le Canada. Les États-Unis vont revoir leur position. Monsieur Harper, lui, joue du piano. Bien sûr, ce sont des questions fort complexes et on ne peut espérer une résolution rapide. Mais les gouvernements ont la responsabilité de s'assurer que les choses avancent. Les crises et les conflits coûtent cher, bien plus cher que les ententes politiques négociées. Les conditions gagnantes pour des relations harmonieuses exigent une volonté et un courage politique réel de la part de ceux qui sont en place. Nos relations sont aussi complexes. Sur le terrain, la cohabitation n'est pas toujours facile. Dans la population, ça prend une bonne dose de confiance et un respect mutuel. Pour ça, il faut se connaître. Malheureusement, il y a beaucoup d'ignorance et de préjugés face aux Autochtones. Nous avons tout un rattrapage à faire au niveau des connaissances. On ne peut plus vivre dans l'indifférence les uns par rapport aux autres. Nous avons besoin d'événements qui nous ressemblent. Nous avons besoin d'événements qui nous rassemblent. Nous avons besoin de projets rassembleurs. Nous devons travailler en partenariat. Il faut que nous travaillions ensemble, autochtones et non autochtones, pour créer des liens afin de mieux nous connaître et développer des solidarités. À cet égard, je veux souligner le travail qu'a accompli le Syndicat canadien de la fonction publique. Vos actions et votre appui témoignent de votre engagement face aux droits des Premières Nations du pays. Que ce soit en milieu urbain ou dans les communautés, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens des Premières Nations, qui font preuve de dynamisme et de créativité. Ils ont besoin de votre solidarité. Il y a aussi des hommes et des femmes qui luttent pour la protection de nos ressources, de nos lacs, de nos rivières et de nos forêts. Ils ont besoin de votre solidarité. Il y a aussi des hommes et des femmes qui croient en la non-violence, la justice sociale et la démocratie. Ils ont besoin de votre solidarité. Nous occupons la mère Terre ensemble. Nos destins sont liés. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être solidaires. C'est ensemble que nous pourrons assurer un avenir meilleur. C'est ensemble que nous pourrons assurer un avenir meilleur aux générations futures et qui sait, peut-être changer le cours de l'histoire. Merci. Thank you. Chimigwech.
To thank Michelle, and Michelle doesn't know Brian.
J'aimerais remercier Michelle et le capitaine Brian Barron qui représente nos membres de aborigènes et ça serait un moment de, pour Brian de remercier à Michelle. Oui, s'il vous plaît, les délégués, on va applaudir les mots de sagesse de Michel Rouleau, très appropriés pour notre histoire. Merci.
Cette balado-diffusion a été réalisée au Congrès national 2009 du SCFP.